Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite des previews de la saison 2023 avec TD Actu, la saison NFL bien évidemment, vous écoutez du football américain. Un jour une preview, on continue aujourd'hui avec une équipe renouvelée, ça tourne hein, cette année, vous avez vu, on fait tourner les animateurs, on fait tout tourner. Les serviettes aussi également, hein, ce que je ne peux pas m'en empêcher vu que je suis parti dans cette phrase, je suis obligé d'aller jusqu'au bout du bourbier où je me suis mis. Raphaël Masmejean, bonjour.
Salut Alain, salut à tous.
Ouais, est-ce que tu aimes faire tourner les serviettes? Du coup, je vous ai vu tous les deux lamenter.
Ouais, grande passion, oui.
Grégory Richard, bonjour.
Bonjour messieurs, bonjour à tous. Et bonjour à Pat.
J'apprécie votre compassion parce que je vous ai vu tous les deux au fur et à mesure que je m'enfonçais dans les trucs de tournée et tout ça. Il y avait des têtes qui bougeaient et je sentais votre compassion de là, il est en train de s'enfoncer dans un truc qui va pas du tout et il sait pas comment sortir.
C'est la fin de l'été, on est encore dans la thématique.
Exactement. Messieurs, aujourd'hui, on va parler des Baltimore Ravens. On va parler de cette équipe de Baltimore qui était à 10 victoires et 7 défaites l'an dernier. Ce qui n'est pas ridicule compte tenu du nombre de blessures qui avaient frappé Baltimore l'an dernier. Lamar Jackson n'a joué que 12 matchs, il n'a toujours pas joué une saison complète, mais il a désormais un contrat à 185 millions garantis. Il a aussi des nouveaux receveurs, puisque Odell Beckham, Nelson Agholor et Laquan Treadwell sont arrivés. Rocky Assin en défense, et je me demande, Laquan Treadwell, c'est toujours à Baltimore, parce qu'il a réussi une réception dans un match de pré-saison, et j'ai souvenir que c'était pas
au
à Baltimore.
Au moins, il est à Baltimore actuellement, au moment où on enregistre cette émission, parce que ça va très vite avec Laquan Treadwell. Hein,
ouais, et puis on...
Il aura bientôt un record de franchise à lui tout seul, mais dernière nouvelle, il était listé dans le roster des Ravens. Ouais.
Je m'embrouille dans les résumés de matchs de pré-saison que j'ai fait, en fait. Voilà. Et puis, on va pas mentir, on enregistre pas très loin des coupes, donc ça va aussi bouger. Il n'y aura peut-être plus d'équipe au moment où vous écoutez cette émission.
Moi, j'en doute.
Allez, les choix de draft, un autre receveur, Zay Flowers, aussi est arrivé très haut. Et du côté des pertes, on a perdu Kenyan Drake, Demarcus Robinson, Josh Oliver, Jawan James, Ben Powers en attaque, Justin Houston, Steven Mintz, Jason Pierre-Paul, Calais Campbell, Brent Urban et Marcus Peters. Beaucoup de vétérans hein, qui sont partis en défense. Est-ce qu'ils sont meilleurs cette année avec tous ces ajouts, notamment offensifs, Grégory?
Bah, c'est un peu l'éternelle question, notamment sur cette position de receveur. On peut pas dire concrètement que John Harbaugh et Eric DeCosta ne cherchent pas de solution pour potentiellement réussir à développer, notamment dans le domaine aérien, Lamar Jackson, parce que encore une fois, on ne découvre pas que voilà, il reste cette arme extrêmement dissuasive, capable de sévir par le biais du sol. C'était encore le meilleur running back la saison dernière, enfin le meilleur coureur en termes de production de yards. Mais oui, on a ces choix assez glamour. On a quand même mis un certain pactole pour sortir Odell Beckham de son chômage temporaire, on va dire, hein, en tout cas de son année sabbatique. Et Zay Flowers, donc tu le disais, un premier tour de draft sur un profil qui reste malgré tout assez similaire. J'ai l'impression qu'on s'oriente beaucoup sur du tight end et du slot receiver, en tout cas avec ce profil-là, pour assumer clairement peut-être le fait que voilà, si Lamar Jackson est peut-être moins à l'aise dans le domaine extérieur, on va peut-être faciliter un petit peu ses grilles de lecture et ça peut permettre de nouveau de réussir à développer cette attaque, en tout cas de la rendre un peu moins unidimensionnelle, ce qu'on voit un peu trop ces dernières saisons.
Bon, après, le pari, il est peut-être aussi de prendre des joueurs un peu similaires parce qu'on ne sait pas ce qu'Odell Beckham va donner. Tu disais chômage, c'est aussi parce qu'il s'est fait les croisés au Super Bowl. Mmh. Il a fait une saison blanche derrière. Il a 30 ans. ce qui n'est pas évidemment vieux à l'échelle humaine, mais qui est un peu plus vieux à l'échelle receveur. Raphaël, est-ce que tu y crois à ce pari Odell Beckham, plus après derrière les rookies, mais est-ce que déjà le pari Odell Beckham, tu y crois?
Je ne sais pas, on est presque dans nos facteurs X de la saison déjà, mais on est un peu en avance sur la trame de la fiche. Mais oui, pourquoi pas. Sur le papier, j'ai envie de croire à ces ajouts dans les squads de receveurs. Maintenant,
alors, c'est quoi le gros point fort? Si tu vas plus dans les facteurs X pour les receveurs, c'est quoi le gros point fort de cette équipe? Est-ce qu'on dit que c'est le jeu au sol, puisqu'ils sont quand même deuxième en NFL l'an dernier à 5,2 yards par course?
Oui, pour moi, ça reste le jeu au sol, sachant qu'il reste deuxième de la ligue sur les yards, malgré des blessures sur la ligne offensive l'an dernier, malgré un Lamar Jackson qui a loupé une partie des matchs, un J.K. Dobbins qui a fait un match sur deux, enfin, j'exagère un peu, mais voilà, malgré toutes ces blessures en attaque, on voit qu'offensivement, les schémas sont là pour faire avancer l'équipe au sol, et manifestement, ils y arrivent. Donc là, je me dis, si on est obligé en début de saison de partir sur le fait que l'effectif est complet, il n'y a pas de blessures. Donc, à partir de là, j'ai du mal à voir comment Baltimore pourrait ne pas encore être une fois dominant au sol parce qu'ils retrouvent leur ligne offensive, parce qu'ils retrouvent Lamar Jackson. Enfin, donc, pour moi, de nouveau, les Ravens vont avancer au sol sans trop de difficultés et avec les inconvénients que ça peut porter peut-être sur l'impact physique sur le long de la saison, avec peut-être le manque de variété comme Greg l'a dit tout à l'heure. Mais en tout cas, ça reste le point fort offensif de cette équipe et c'est une certitude maintenant.
Greg, c'est une moue dubitative ou c'est une moue d'accord? Je t'ai pas senti hyper. Je t'ai senti un peu.
Non. Je réagissais juste sur le fait que, en effet, le jeu au sol qui sera encore assez prégnant dans cette équipe-là. Encore une fois, on l'a dit, quand on a un quarterback de cet acabit-là qui est capable d'apporter ce profil double menace comme la Lamar, ce serait une hérésie, je pense, de pas le considérer. Maintenant, il y a un changement de coordinateur offensif. Todd Monken arrive, lui qui vient de gagner deux titres nationaux en universitaire avec l'attaque de Georgia. On a vu quand même qu'historiquement, il est un peu plus orienté sur du jeu plus aérien. Donc, c'est ce qui reste à voir. Mais je rejoins globalement Raph sur ce point fort. Peut-être un petit déficit de conclusion, peut-être l'année dernière. C'est peut-être ce qui leur faisait défaut au niveau du jeu au sol d'un point de vue offensif. Mais honnêtement, oui, c'est extrêmement productif. Ça devrait le rester. Sur mes points forts, pour faire court, j'ai gardé le pass rush, puisque ça reste globalement une habitude en défense de la part des Ravens. Certes, ils perdent Calais Campbell, notamment, et Justin Houston, qui était assez productif l'année dernière. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont derrière pour mettre la pression. On sait que Odafeowu est là. Tyus Bowser traîne quelques petits problèmes de blessure durant la pré-saison, mais on a vu quand même qu'il pouvait être assez complet. On a David Ojebo également qui a été drafté assez haut il n'y a pas si longtemps que ça. Jadeveon Clowney, j'en attends pas grand-chose personnellement, mais en tout cas, il peut apporter aussi d'un point de vue ne serait-ce que volume, parce que sur le run-stop, il peut à minima être précieux. Ça fait quand même beaucoup de joueurs intéressants, je trouve, sur l'extérieur de ce front seven.
Ouais, je me permets de compléter, mais je trouve même qu'on peut pousser un peu en défense avec des duos pas inintéressants. Enfin, sur les postes de linebacker, Roquan Smith, Patrick Queen. Sur le papier, ça peut quand même être une des meilleures paires de linebackers, de middle linebacker de la ligue. Mm-hmm. Et moi, je suis plutôt fort hypé, on va dire ça, très intéressé par la paire de safety, Kyle Hamilton. Et Marcus Williams a fait une bonne saison l'an dernier. Hamilton était rookie, il a très bien fini la saison. Je pense que là, sur le papier, tu as un duo, une paire de safety pareil qui peut très vite prétendre être parmi les très très bonnes paires de la ligue. Donc il y a quand même dans cette défense, peut y avoir des problèmes à gauche à droite, mais il y a une ossature, une solidité, une ossature. Et c'est pas pour rien que l'an dernier, malgré toutes les blessures, ils sont à 17. Je pense que ça en fait partie, cette ossature solide. Et Baltimore peut à nouveau se baser là-dessus cette année.
C'était la troisième défense sur les yards autorisés par course aussi l'an dernier. Il y en a un dont on n'a pas parlé. Est-ce que Lamar Jackson est un point fort? Parce qu'on n'en a pas. Déjà, c'est significatif que ce soit pas le premier qu'on avance, alors que c'est quand même un ancien MVP. Raphaël, est-ce que c'est encore un point fort de cette équipe? 17 touchdowns pour 7 interceptions l'an dernier en 12 matchs.
Je pense que ça reste un point fort. Quand il est au centre de l'attaque de Baltimore, il avance. Alors peut-être qu'il avance pas autant à la passe que certains aimeraient et que beaucoup de fans ou beaucoup d'observateurs de la NFL, j'ai envie de dire, auraient envie de voir. Maintenant, l'attaque de Baltimore, quand elle est menée par Lamar Jackson, globalement avance. Alors, C'est pour moi, ça reste un point fort. Ça reste un point fort. Aujourd'hui, il n'y a pas non plus 20 quarterbacks que j'aimerais avoir avant Lamar Jackson pour faire avancer mon équipe. Donc, moi, j'aurais tendance à continuer. Après, je peux entendre certains doutes.
Ça remonte à 2019, hein, le titre de MVP. Grégory, toujours un point fort?
Oui, je pense qu'il rentre dans sa sixième saison NFL. Tu l'as dit, malheureusement, ce n'est pas toujours des saisons complètes, mais c'est aussi lié à son style de jeu. Malheureusement, il y a beaucoup de quarterbacks qu'on a vu par le passé qui jouaient comme lui et qui ont eu des fins de carrière prématurées. Donc malgré tout, on voit qu'il arrive à se préserver. On espère pour lui que ce sera le cas, aussi pour les Ravens, vu l'investissement qui a été consenti. Je pense que maintenant, il faut le prendre avec ses forces et ses faiblesses et se dire que voilà, ce sera peut-être jamais un quarterback qui va lancer pour 5 milliards sur une saison, mais ça reste un quarterback qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu et qui va pouvoir permettre justement à cette équipe de rester globalement explosive. Donc, j'aurais du mal à le mettre autre part que dans les points forts malgré tout.
Point fort, mais qui a atteint son plafond, si je comprends bien.
À mon sens, oui. Là, je pense que il était un petit peu, c'était un petit peu la discussion qui revenait depuis l'année dernière. Je pense qu'il était un petit peu peut-être arrivé à une fin de cycle avec Greg Roman. L'arrivée d'un nouveau coordinateur offensif, au bout d'un moment, je pense que si vraiment ça passe pas avec ce potentiellement ce système un petit peu dépoussiéré, là, faudra se dire que très clairement, on a atteint le maximum de ce qu'on peut potentiellement espérer de Lamar Jackson, même si on a vu des choses par le passé. Mais en tout cas, faudra peut-être pas s'attendre à beaucoup plus.
On va boucler les points forts avec Justin Tucker. Évidemment, on parle pas souvent des kickers, mais ils ont le meilleur kicker de la ligue. Pourquoi ils peuvent perdre? Alors, parce qu'on a parlé de pas mal de choses. Finalement, quel est le point faible le plus évident pour toi, Grégory?
Bah, moi, j'aime pas beaucoup. J'ai un petit peu de mal quand même avec cette escouade de cornerback. Ça fait quand même plusieurs saisons. Alors, l'année dernière, c'était un peu moins palpable parce que, on va dire que c'était une équipe qui pliait sans rompre. Donc, qui concédait pas mal de yards, mais qui se faisait pas forcément ouvrir par les airs dans l'embut. Là, en l'occurrence, il y a un Marlon Humphrey qui continue de progresser. Ils ont fait venir Ronald Darby, peut-être un peu pour l'expérience, mais c'est vrai que derrière, il y a beaucoup de paris. Tu citais Rock Yacine également, qui était quand même solidement ancré dans la rotation. C'était à Vegas qu'il était ou au Colts,
ouais,
j'ai perdu le fil.
C'était à Vegas l'an dernier,
Vegas,
et
ouais,
avant au Colts. Ouais.
Donc voilà, mais c'est vrai que malgré tout, ils ont été beaucoup tributaires des blessures de Marcus Peters ces dernières années. Peut-être qu'avec un corps de corner un peu plus en forme, ça peut être cohérent et peut-être moins sujet, un peu moins permissif. Mais ouais, on s'est quand même rendu compte que justement, quand le pass rush, qui était une des forces, comme on le disait, était un peu plus en délicatesse, bah ça pouvait malgré tout laisser des boulevards derrière. Donc voilà, Raph le citait, il y a un bon duo de safety, il y a un cornerback quand même plus qu'établi aujourd'hui dans la ligue avec Humphrey, il faut espérer que ce ne soit pas le cas, mais pour moi ça reste quand même un point d'interrogation au moment de démarrer la saison.
Raphaël.
Oui, globalement, cette escouade de cornerback me semble un peu faible par rapport au reste de l'équipe, et en dehors de Humphrey en tout cas, c'est vrai que Darby c'est expérimenté, mais est-ce que c'est encore vraiment au niveau? Rock Yacine, on est sur un joueur tout juste correct, sans beaucoup plus, parce que je vais te dire, quand tu vois les problèmes qu'avait Las Vegas dans le backfield défensif l'an dernier, si vraiment il était incroyable, je
On
pense
l'aurait
qu'ils
vu.
l'auraient gardé. Ils auraient, en tout cas, ils auraient trouvé le moyen de le garder. Donc c'est voilà, c'est aussi un peu significatif de son niveau moyen. Donc ouais, cette escouade de cornerback, effectivement, paraît être le point faible.
Du côté des Factor X, donc si j'ai bien compris, on vient à ces histoires de receveurs, d'Odell Beckham, de Rashod Bateman, de Zay Flowers, etc. À moins que Greg ne soit pas d'accord.
Non, juste j'en rajoute un pour moi qui est forcément indéniable par rapport à ce qu'on a dit depuis le début de l'émission, l'infirmerie. L'infirmerie parce que tu as beaucoup trop de joueurs blessés et je mets notamment l'emphase sur un joueur notamment, Ronnie Stanley. Alors, tu parlais des blessures de Lamar Jackson. Je pense que s'il y en a un qui a joué moins de matchs ces dernières années que Jackson, c'est malheureusement le left tackle des Ravens. Donc, ce serait bien de pouvoir compter sur lui dans une division AFC Nord qui est quand même ultra compétitive, qui est attendue pour l'être. Donc, voilà. Le problème de l'infirmerie à résoudre très vite.
Je vous trouve assez confiant sur le pass rush. Moi, j'avoue que je les avais probablement en facteur X parce que Calais Campbell, c'est pas une perte anodine, même si c'était un joueur qui avait passé un certain âge, mais ou alors on fait vraiment confiance au coaching parce que derrière c'est pas non plus des éléments très prouvés quoi. Jabo, Dafe Owe.
Pardon. J'entends ce que tu dis et effectivement par rapport à plusieurs équipes dont on va parler dans les jours à venir, il manque un pass rusher star, un mec qui va claquer les 10-15 sacks sans aucun souci. Là-dessus, je suis d'accord. Mais après, ce qui me rassure, c'est le schéma, comme tu dis, du côté des Ravens. C'est que ces dernières saisons, les Ravens sont quand même, nous ont habitués à sortir des pass rushers d'un peu partout, des Za'Darius Smith, des Tyus Bowser. Là, tu as Owe et Ojabo qui sont assez jeunes, qui peuvent progresser. Et mine de rien, quand tu regardes dans les stats, l'an dernier, sans vrai pass rusher numéro 1, Baltimore est pas ridicule. De mémoire, ils sont dans le top 10 en termes de sacs, de pression. Donc, il y a quand même un savoir-faire. Après, peut-être que ça peut être l'année où le savoir-faire n'est pas suffisant et il manque le talent plus pour aller au-delà, en fait. Ça peut être un problème, hein, pour viser plus.
C'est ça.
Mais bon.
Non, j'allais dire, et pour répondre à ta question, Alain, oui, moi je fais confiance au coaching staff. On rappelle aussi que c'était une des équipes les plus disciplinées l'année dernière d'un point de vue flag. Globalement, John Harbaugh, je pense qu'on va pas apprendre grand-chose à nos auditeurs sur le fait que bah, c'est quand même un des head coachs les plus solides de la ligue à ce niveau-là, en termes de prise de décision, notamment en fin de match. Donc voilà, moi pour moi, je ne l'ai pas cité dans les points forts, mais en tout cas, c'est clairement pas ce qui m'inquiète non plus à l'heure actuelle.
Le planning commencera avec les Texans, ensuite ils joueront les Bengals, les Colts, les Browns, les Steelers, les Titans. Les Titans, s'il est à l'extérieur, c'est un de ceux qui est à
C'est à Londres,
Londres,
il me
voilà.
semble. Ouais.
Les Lions, les Cardinals, les Seahawks, les Browns, les Bengals, les Chargers. Semaine de repos très tard en semaine 13. Et ensuite, ils enchaîneront avec Rams, Jaguars, 49ers, Dolphins et Steelers. Fini plutôt costaud. À noter qu'ils jouent leur 1, 2, 3, 4, 5 premiers matchs à 19h en France, donc 13h, ça va être du co-test tôt. Et les matchs en prime time, ils sont tous groupés sur la fin. Ils jouent en prime time en semaine 11, 12, 15, 16. Voilà. Donc, si vous aimez les horaires, si vous pensez que ça a une influence, je vous le donne. Je ne pense pas. Mais voilà. Combien de victoires, Raphaël?
Écoute, moi je trouve qu'il y a quand même un certain nombre de matchs assez abordables pour eux si, si tout le monde est en bonne santé. Je pense les matchs Lions, Rams, Texans, enfin c'est quand même y a des victoires potentiellement à aller chercher pas facilement parce que c'est jamais facile en NFL, mais voilà. Du coup, moi je suis monté jusqu'à 10.
Oh bah, t'es pas si optimiste que ça. Moi, je suis monté à 11 ou 12, tu vois.
Ok.
10, c'est à peu près ce que j'avais. Sachant que c'est la même problématique que Miami, c'est-à-dire que tu peux monter plus haut, mais qu'il y a tellement cette épée de Damoclès au-dessus du quarterback et de ce que ça
Problème.
pourrait changer derrière que voilà, tu es obligé de te freiner un peu, tu vois. Donc, je suis resté à 17 aussi de mon côté.
Donc 10, 10. Tu vois, moi j'avais 11 ou 12. Donc on va dire que pour les parieurs, le over-under est à 10 et demi.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que vous pensez qu'il y aura plus ou moins de 10 et demi victoires? Mais ça fait quand même une équipe plutôt solide, donc qui sera dans la course au playoff. Mais après, on a vraiment l'impression qu'en effet, ça se résume à cette épée de Damoclès-là, c'est-à-dire que c'est les blessures, quoi. C'est 12 matchs pour Jackson l'an dernier et l'année d'avant. Après, Tyler Huntley, son remplaçant est Pro Bowler l'an dernier officiellement.
Oui. Pour ce que ça vaut, en effet. Mais oui, c'est ça, c'est des blessures en plus offensivement, quoi. C'est qu'on l'a dit, c'est du Jackson, du Stanley, du Dobbins, d'autres joueurs de la ligne qu'on oublie, mais ouais, c'est vrai que malheureusement, c'est un peu trop prégnant de ce côté-là du ballon. Ouais.
Et c'est comme ça qu'on termine la preview des Baltimore Ravens. On vous remercie de nous écouter, de nous soutenir sur Tipeee. N'hésitez pas, hein, il y a les calendriers de la saison qui sont encore disponibles. Il y a d'autres choses qui devraient arriver. Pas encore, non? Au moment où vous écoutez, mais en tout cas, il y a les calendriers de la saison qui sont disponibles et il y a eu quelques baisses de prix sur d'autres éléments qu'on a en stock depuis longtemps et qu'on ne fera plus forcément. Donc n'hésitez pas là sur certains stickers, sous-verre, etc. Vous nous écoutez, la pastille sort le 30, donc vous nous écoutez peut-être sans avoir encore réservé votre place pour la soirée au Hard Rock Café le 2 septembre. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre à partir de 16h. Il y aura un quiz, il y aura une émission en public, il y aura un repas avec l'équipe. Donc n'hésitez pas à venir et plein d'autres surprises sur le site. Peut-être même le 30, le jour où vous écoutez, il se passera plein de choses sur TDA. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site. Peut-être qu'on en parlera demain. Vous retrouvez la preview en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur sur TD Actu. Pour nous suivre, tdactu.com et tous les réseaux sociaux, tous les liens sont sur le site. Merci beaucoup Grégory, merci beaucoup Raphaël
Un plaisir.
et à demain.